Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. À nouveau dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. « Vous voyez, monsieur, que je suis venu comme je l'avais promis, m'écriai-je, avec un fin enjouement. Et je crains que la neige ne me retienne chez vous pendant une demi-heure, si vous pouvez m'accorder abri pendant ce laps de temps. »«
Une demi-heure ? » dit-il, en secouant les blancs flocons qui couvraient ses vêtements.
« Je me demande pourquoi vous avez choisi le fort d'une tourmente de neige pour venir vous promener jusqu'ici. » « Savez-vous que vous courez le risque de vous perdre dans les marais ?» Des gens familiers avec ces landes s'égarent souvent par de pareilles soirées, et je puis vous annoncer qu'il n'y a aucun espoir de changement pour le moment. « Je pourrais peut-être trouver parmi vos valets de ferme un guide qui resterait à la grange jusqu'à demain, si vous pouviez m'en prêter un. »«
Non, je ne pourrais pas. »«
Oh, vraiment ?» Eh bien alors, j'en serai réduit à ma seule sagacité. Allez-vous faire le thé ? Demanda l'homme à l'habit râpé, détournant de moi son farouche regard pour le diriger sur la jeune femme.
Faut-il en faire pour lui ? Demanda-t-elle en s'adressant à Heathcliff.
Préparez-le, voulez-vous ? Fut la réponse faite d'une façon si brutale que je tressaillis. Le ton dont ces mots furent prononcés révélait une nature foncièrement mauvaise. Je n'avais plus envie d'appeler Heathcliff un homme admirable. Quand les préparatifs furent terminés, il m'invita. « Maintenant, monsieur, avancez votre chaise. » Et tous, y compris le rustique jeune homme, s'approchèrent de la table. Un austère silence régna pendant que nous prenions notre repas. Je pensais que, si ma présence avait jeté un froid, il était de mon devoir de faire un effort pour le dissiper. Il n'était pas possible que ces gens fussent tous les jours aussi sombres et aussi taciturnes. Il n'était pas possible, si mauvais caractère qu'ils eussent, que cet air renfrogné qu'ils avaient tout fut leur air de tous les jours.
Il est étrange, commençai-je, dans l'intervalle entre une tasse de thé et une autre, il est étrange que l'habitude puisse ainsi façonner nos goûts et nos idées. Beaucoup de gens seraient incapables de concevoir l'existence du bonheur dans une vie aussi complètement retirée que la vôtre, monsieur Heathcliff. Pourtant, j'oserais dire que, entouré de votre famille, avec votre aimable épouse comme génie tutélaire de votre foyer et de votre cœur, mon aimable épouse, interrompit-il avec un ricanement presque diabolique. Où est-elle, mon aimable épouse ?
Madame Heathcliff, votre femme, veux-je dire.
Ah, bon, oui. Vous voulez sans doute faire entendre que son esprit a pris le rôle d'ange gardien et veille sur le sort de Hurlevent, même quand son corps l'a quitté. Est-ce cela ?
M'apercevant que je commettais une bévue, j'essayai de la rattraper. J'aurais dû voir qu'il y avait une trop grande disproportion d'âge entre deux pour qu'ils pussent avec vraisemblance être mari et femme. L'un avait environ 40 ans, un âge de vigueur mentale où les hommes nourrissent rarement l'illusion d'être épousés par amour par des jeunes filles. Ce rêve est réservé comme consolation au déclin de nos années. l'autre ne paraissait pas 17 ans. J'eus une inspiration soudaine. Le lourdeau qui est à côté de moi et qui boit son thé dans une jatte et mange son pain avec des mains sales pourrait bien être son mari, Heathcliff Junior, sans doute. Voilà ce qui arrive quand on s'enterre vivante. Elle s'est jetée sur ce rustre par simple ignorance de l'existence d'êtres supérieurs. C'est bien dommage. Il faut que je tâche de lui faire regretter son choix. Cette dernière réflexion peut sembler d'un fat, elle ne l'était pas. Mon voisin me frappait comme un être presque repoussant. Je savais par expérience que je n'étais pas sans séduction. « Madame Heathcliff est ma belle-fille, » dit Heathcliff, ce qui confirma ma supposition. Il dirigea sur elle en parlant un singulier regard, un regard chargé de haine. À moins que, par l'effet d'une disposition anormale, ses muscles faciaux n'interprètent pas, comme ceux des autres humains, le langage de son âme. « Ah, certainement, je comprends. Maintenant, vous êtes l'heureux possesseur de cette fée bienfaisante, remarquai-je en me tournant vers mon voisin. » Ce fut encore pire. Le jeune homme devint écarlate et ferma le poing en donnant tous les signes de préméditation d'un assaut. Mais il parut se ressaisir presque aussitôt et étouffa l'orage sous un brutal juron grommelé à mon adresse et que, bien entendu, j'eus soin d'ignorer. « Pas de chance dans vos conjectures, monsieur, » observa mon hôte. « Aucun de nous n'a le privilège de posséder votre bonne fée. Son époux est mort. J'ai dit qu'elle était ma belle-fille. Il faut donc qu'elle ait épousé mon fils. » « Et ce jeune homme n'est pas mon fils, assurément. » Heathcliff sourit encore comme si c'eût été une plaisanterie un peu trop forte de lui attribuer la paternité de cet ours. « Mon nom est Hareton Hirnshaw, » bougonna l'autre, « et je vous conseille de le respecter. » « Je n'ai fait preuve d'aucune irrévérence, » répondis-je en riant intérieurement de la dignité avec laquelle il se présentait lui-même. Avant qu'il eût cessé de tenir les yeux fixés sur moi, j'avais détourné de lui mon regard de crainte d'être tenté de le gifler ou de donner cours à mon hilarité. Je commençais à me sentir indubitablement peu à ma place dans cet agréable cercle de famille. Le sentiment de bien-être physique que j'éprouvais était plus que neutralisé par la lugubre atmosphère spirituelle qui régnait là. Je résolus de réfléchir avant de m'aventurer sous ce toit une troisième fois. Le repas terminé et personne ne manifestant d'un mot la moindre sociabilité, je m'approchai de la fenêtre pour examiner le temps. Un triste spectacle s'offrit à ma vue. Une nuit obscure tombait prématurément. Le ciel et les collines se confondaient dans un violent tourbillon de vent et de neige épaisse. « Je ne crois pas qu'il me soit possible maintenant de rentrer chez moi sans un guide, ne puis-je m'empêcher de m'écrier. Les routes doivent avoir déjà disparu. Si même elles étaient découvertes, je verrais à peine où mettre le pied. »« Hareton, conduis cette douzaine de moutons sous le porche de la grange. Ils vont être enfouis si on les laisse dans leur parc toute la nuit. Et mets une planche devant eux, » dit Heathcliff. « Que faire ? Continuai-je. » avec une irritation croissante. Ma question demeura sans réponse. En jetant un regard autour de moi, je ne vis que Joseph qui apportait un seau de porridge pour les chiens et Madame Heathcliff penchée sur le feu qui s'amusait à faire brûler un paquet d'allumettes tombé du rebord de la cheminée quand elle avait remis la boîte à thé à sa place. Après avoir déposé son fardeau, Joseph passa l'inspection de la pièce et grinça d'une voix chevrotante. « Je me demandions comment que vous pouvez rester là à rien faire et à vous chauffer quand tous y sont dehors. mais vous n'êtes qu'une propre à rien, et c'est pas la peine d'user sa salive. Vous n'amenderez jamais vos mauvaises manières et vous irez drette chez le diable, comme votre mère avant vous. »
Je m'imaginais un instant que ce morceau d'éloquence était à mon adresse. Passablement en colère, je m'avançai vers le vieux drôle avec l'intention de le jeter dehors à coups de pied. Madame Heathcliff m'arrêta par sa réponse.
« Vieil hypocrite médisant, répliqua-t-elle. N'avez-vous pas peur d'être emporté vous-même quand vous prononcez le nom du diable ? Je vous conseille d'éviter de m'irriter ou je solliciterai votre enlèvement comme une faveur spéciale. Arrêtez ! Regardez un peu, Joseph, continua-t-elle en prenant sur un rayon un grand livre foncé. « Je vais vous montrer mes progrès dans la magie noire. Je serai bientôt en état de faire par elle cette maison nette. » Ce n'est pas par hasard que la vache rouge est morte, et si votre rhumatisme ne peut guère être compté comme une grâce providentielle.
« Oh, mauvaise, mauvaise !» haleta le vieux. « Le Seigneur nous délivre du mal !»«
Non, impie, vous êtes un réprouvé. Allez-vous-en ou vous pâtirez sérieusement. Vous serez tous modelés en cire et en argile, et le premier qui transgressera les bornes que je fixe sera... Je ne veux pas dire ce qui lui arrivera, mais vous verrez. Allez, j'ai l'œil sur vous. »
La petite sorcière mit une feinte malignité dans ses beaux yeux. Et Joseph, tremblant d'une sincère horreur, s'enfuit en priant et en répétant « Mauvaise !» Je pensais que la jeune femme avait dû se livrer à une sorte de sinistre plaisanterie. À présent que nous étions seuls, j'essayais de l'intéresser à ma détresse. « Madame Heathcliff, dis-je sérieusement, « veuillez m'excuser de vous déranger. Je prends cette liberté parce qu'avec un pareil visage, je suis sûr que vous ne pouvez pas ne pas avoir bon cœur. Indiquez-moi quelques repères qui me permettent de retrouver mon chemin pour rentrer chez moi. Je n'ai plus d'idée de la manière de m'y rendre que vous n'en auriez si vous deviez aller à Londres. »
« Suivez le chemin par lequel vous êtes venu, » répondit-elle en s'installant sur une chaise.
« C'est un conseil bref, mais c'est le meilleur que je puisse vous donner. »
Alors, si vous entendez dire qu'on m'a découvert mort dans une fondrière ou dans un trou plein de neige, votre conscience ne murmurera pas que c'est en partie votre faute.
Pourquoi ? Je ne peux pas vous escorter. Il ne me laisserait jamais aller jusqu'au bout du mur du jardin.
Vous ? Je serais désolé de vous demander pour ma commodité de franchir le seuil par une nuit pareille, m'écriai-je. Je vous demande de me dire quel est mon chemin, et non de me le montrer, ou sinon de persuader M. Heathcliff de me donner un guide.
Qui ? Il y a lui, Earnshaw, Joseph, Zilla et moi. Qui voudriez-vous prendre ?
Il n'y a pas de valet à la ferme ?
Non, personne, hormis ceux que je viens de nommer.
Thank you. hand as I stumbled and fell to the ground. So hard to laugh as I fumbled and reached for the love I found.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Léo de Hurlevent, après notre habituelle pause musicale. J'espère que ce sera pour vous une leçon de ne plus entreprendre à la légère d'excursions dans ces montagnes, cria de l'entrée de la cuisine la voix forte de Heathcliff. Quant à ce qui est de rester ici, je n'ai pas d'installation pour les visiteurs. Il faudra que vous partagiez le lit de Harton ou de Joseph, si vous restez.
Je peux passer la nuit sur une chaise, dans cette chambre, proposai-je.
Non, non, un étranger est un étranger, qu'il soit riche ou pauvre. Il ne me convient pas de laisser à quelqu'un la libre disposition de la pièce quand je ne suis pas là pour surveiller,
dit le grossier coquin.
Cette insulte mit ma patience à bout. Je laissai échapper une exclamation de dégoût et passant devant lui, je me précipitai dans la cour. Dans ma hâte, je me heurtai contre Earnshaw. Il faisait si sombre que je ne pus trouver la sortie. Comme je tournais tout autour de la maison, j'eus un autre spécimen de leur charmante manière de se traiter entre eux. Au début, le jeune homme parut sur le point de s'intéresser à mon sort.
Je vais aller avec lui jusqu'à l'entrée du parc, dit-il.
Tu iras avec lui en enfer, s'écria son maître.
Si c'est là le terme qui convient à leur situation respective.
Et qui soignera les chevaux, hein?
La vie d'un homme a plus d'importance qu'une négligence d'un soir pour les chevaux.
Il faut que quelqu'un y aille, murmura Madame Heathcliff, avec plus de bienveillance que je n'en aurais attendu d'elle.
Pas sur votre ordre, riposta Harton. Si vous vous intéressez à son sort, je vous conseille de vous tenir tranquille.
Alors j'espère que son spectre vous hantera, et j'espère que M. Heathcliff n'aura jamais d'autre locataire tant que la grange sera debout, répondit-elle d'un ton tranchant.
Écoutez, écoutez, la voilà qu'il est maudit, marmotta Joseph, vers qui je m'étais dirigé.
Il était assis assez près pour entendre, occupé à traire les vaches à la lueur d'une lanterne, que je saisis sans cérémonie. Je lui criai que je la renverrais le lendemain, et je courus à la porte de sortie la plus proche.
Maître, maître, il vole la lanterne, cria le vieux en me poursuivant dans ma retraite. Hé, Nachère, hé, chien, hé, Wolf, tenez le bon, tenez le bon.
Comme j'ouvrais la petite porte, deux monstres velus me sautèrent à la gorge, me renversèrent, et la lumière s'éteignit pendant que le gros rire de Heathcliff et de Harton mettait le comble à ma rage et à mon humiliation. Heureusement, les bêtes paraissaient plus enclines à allonger les pattes à bâiller et à agiter la queue qu'à me dévorer vif. mais elle ne tolérait pas que je ressuscitasse, et je dus rester à terre jusqu'à ce qu'il plût à leur malicieux maître de me délivrer. Alors, sans chapeau et tremblant de colère, j'ordonnai à ces mécréants de me laisser sortir. S'ils me retenaient une minute de plus, c'était à leurs risques et périls. Avec des menaces de représailles aussi incohérentes que variées et qui, par la profondeur et la vague de leur virulence, faisaient songer au roi Lear. La véhémence de mon agitation amena un copieux saignement de nez. Iscliff continuait de rire, moi de pester. Je ne sais pas qui aurait mis fin à la scène s'il n'y avait eu à proximité une personne plus raisonnable que moi-même et plus bienveillante que mon hôte. C'était Zilla, la robuste femme de charge, qui finit par sortir pour s'enquérir de la nature du tumulte. Elle crut que l'un d'eux m'avait fait violence, et n'osant s'attaquer à son maître, elle dirigea son artillerie vocale contre le plus jeune des deux drôles. « Eh bien, monsieur Hailshow, s'écria-t-elle, je me demande ce que vous pourrez bien inventer bientôt. Allons-nous massacrer les gens sur le seuil de notre porte ?» « Je vois que cette maison ne me conviendra jamais. Regardez le pauvre garçon, il étouffe ma foi. Chut, chut, il ne faut pas continuer ainsi. Entrez et je vais guérir cela. Allons, calmez-vous. » À ces mots, elle me versa tout à coup une pinte d'eau glacée dans le cou et me poussa dans la cuisine. Monsieur Heathcliff m'y suivit et sa gaieté accidentelle disparut rapidement pour faire place à son habituelle morosité. Je me sentais extrêmement mal. La tête me tournait et j'étais faible. Ainsi, je me voyais obligé, malgré moi, d'accepter l'hospitalité sous ce toit. Mon hôte dit à Zilla de me donner un verre de brandy, puis passa dans l'autre pièce. Tout en me témoignant sa sympathie pour ma triste situation, Zilla exécuta les ordres de son maître, ce qui me ranima un peu. Puis me conduisit à un lit. Tandis qu'elle me guidait dans l'escalier, elle me recommanda de masquer la chandelle et de ne pas faire de bruit. Car son maître avait des idées bizarres au sujet de la chambre où elle allait me mettre. Et il n'y laissait jamais volontiers loger quelqu'un. J'en demandai la raison. « Elle l'ignorait, » me répondit-elle. « Il n'y avait qu'un an ou deux qu'elle était là, et ils avaient tant d'étranges manières qu'elle n'en finirait jamais si elle se mettait à être curieuse. » Trop hébété pour être curieux moi-même, je fermai la porte et regardai autour de moi en cherchant le lit. Tout l'ameublement consistait en une chaise, une armoire, et une grande caisse de chêne avec des ouvertures carrées dans le haut qui ressemblaient à des fenêtres de voiture. Je m'approchai de cet édifice, jetai un coup d'œil à l'intérieur et reconnus que c'était une singulière couchette de vieux modèle, très bien comprise pour dispenser chaque membre de la famille d'avoir une chambre séparée. En fait, cela formait un petit cabinet, et le rebord d'une fenêtre qui y était incluse servait de table. Je fis glisser les panneaux de côté, entrai avec ma lumière, les refermai, et me sentis en sûreté contre la vigilance de Heathcliff ou de tout autre. Sur le rebord de la fenêtre où je plaçai ma chandelle, se trouvaient empilés dans un coin quelques livres rongés d'humidité. Ce rebord était couvert d'inscriptions faites avec la pointe d'un couteau sur la peinture. Ces inscriptions, d'ailleurs, répétaient toutes le même nom en toutes sortes de caractères grands et petits. Catherine Hearnshow. Ça et là changé en Catherine Heathcliff, puis encore en Catherine Linton. Dans ma pesante apathie, j'appuyai la tête contre la fenêtre et continuai à épeler « Catherine Hearnshow, Heathcliff, Linton. » Mes yeux finirent par se fermer.
Mais il n'était pas clos depuis 5 minutes qu'un éblouissement de lettres blanches jaillit de l'obscurité éclatante comme des spectres. L'air fourmillait de Catherine. En me soulevant pour chasser ce nom obsédant, je m'aperçus que la mèche de ma chandelle s'inclinait sur un des antiques volumes d'où se dégageait un parfum de cuir de veau brûlé. Je la mouchai et, très mal à l'aise sous l'influence du froid et d'une nausée persistante, je me mis sur mon séant et ouvris le volume qui avait souffert en l'appuyant sur mon genou. C'était une Bible en caractère fin, sentant terriblement le moisi. La page de garde portait l'inscription « Catherine Hirnshaw », son livre. Et une date remontait à un quart de siècle environ. Je refermai le volume, en pris un autre, puis un autre, et les examinai tous ainsi à tour de rôle. La bibliothèque de Catherine était choisie, et son état de délabrement prouvait qu'on en avait fait un usage fort ample, sinon tout à fait légitime. Presque aucun chapitre n'avait échappé à un commentaire à la plume ou au crayon. Ou du moins à ce qui semblait en être un, qui couvrait chaque parcelle de blanc laissée par le compositeur. Il y avait des phrases détachées. Ailleurs, cela prenait la forme d'un journal en règle, griffonné d'une main inhabile d'enfant. En haut d'une page blanche, un vrai trésor probablement quand on l'a découvert, je me divertis beaucoup en trouvant une excellente caricature de mon ami Joseph, d'un crayon grossier mais vigoureux. Je conçus sur le champ de l'intérêt pour la Catherine inconnue et me mis aussitôt à déchiffrer ces hiéroglyphes à moitié passés. Un horrible dimanche. Ainsi débutait le paragraphe qui suivait. Je voudrais que mon père pût revenir parmi nous. Hindley est un détestable remplaçant. Sa conduite envers Heathcliff est atroce. H et moi allons nous révolter. Nous avons fait le premier pas ce soir. Toute la journée, il a plu à torrent. Nous n'avons pu aller à l'église, de sorte que Joseph a dû réunir les fidèles dans le grenier. Pendant que Hindley et sa femme se chauffaient en bas devant un bon feu, occupés à n'importe quoi, sauf à lire leur Bible, j'en jurerai, Heathcliff, moi-même et le pauvre valet de charrue recevions l'ordre de prendre nos livres de prière et de monter. Placés en rang, sur un sac de grain, nous maugrions et nous grelottions tout en espérant que Joseph grelotterait aussi afin que son propre intérêt le poussât à raccourcir son homélie. Quelle erreur! Le service a duré exactement 3 heures. Et pourtant, mon frère a eu le front de s'écrier en nous voyant descendre. « Quoi? Déjà fini ?» Autrefois, le dimanche après-midi, on nous permettait de jouer, pourvu que nous ne fissions pas trop de bruit. Maintenant, le moindre rire étouffé suffit à nous faire envoyer dans le coin. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ces fameux « Hauts de Hurlevent » de Emily Brontë que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.